With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 16 novembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
BlackRock, c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites.
Derrière la réforme Macron se cachent les fonds de pension tels que BlackRock.
Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez tout de l'incroyable succès du Google de la finance, BlackRock. Vous êtes capable d'expliquer ce qu'est un ETF en parlant de boule de glace et vous ne verrez plus jamais le génie d'Aladin de la même manière. Alors là, normalement, si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous courez écouter l'épisode d'hier. Mais ce que vous ne comprenez pas encore, c'est le rapport avec la réforme des retraites. Ne vous inquiétez pas, on y vient. Parce que le gestionnaire d'actifs ne se contente pas de gagner de l'argent, il veut aussi influer sur l'ordre du monde. Et quand on pèse près de 10 000 milliards de dollars, on a tendance à être écouté. Épisode 2, le pouvoir de la finance. On ne change pas une équipe qui gagne. Pour mesurer l'étendue du pouvoir de BlackRock, j'accueille Raphaël Bloch, spécialiste finance au service économie de l'Express. Salut Raphaël.
Salut Xavier.
Je te propose de commencer par parler de cette histoire de réforme des retraites parce que je sais que c'est un point que tu as abordé dans ton enquête sur BlackRock.
Ouais, exactement. Parce que finalement, la première fois qu'on a entendu parler de BlackRock en France, c'était à l'occasion en 2019 de la réforme des retraites. Beaucoup de gens, sur la base d'une note et de la Légion d'honneur du patron de BlackRock à l'époque, Jean-François Cirelli, ont considéré que c'était BlackRock qui poussait la réforme en France parce qu'effectivement, ils ont un intérêt à ce que l'on passe un régime de capitalisation.
Et c'était pas vrai.
Ça n'était pas vrai. En fait, la note en question était publique et BlackRock n'a pas en fait piloté la réforme plus que les autres. Ce sont des partenaires des politiques, donc il y a des discussions, mais ce ne sont pas eux qui ont rédigé la réforme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cet épisode montre à quel point BlackRock suscite énormément de fantasmes.
Ce que tu nous dis là, Raphaël, c'est que BlackRock, dans ce cas précis, n'y est pour rien. Mais si le groupe alimente les fantasmes, comme tu dis, c'est parce que dans bien des cas, son influence est réelle.
Oui, quand même, parce qu'effectivement, faut pas oublier que BlackRock est un géant. Ils sont actionnaires d'à peu près tous les grands groupes en Europe et aux États-Unis. C'est pas compliqué. Si on prend la liste des groupes du CAC 40, ils sont quasiment le premier actionnaire de toutes les sociétés. Ça, c'est sur le volet entreprise. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que finalement, et on en avait parlé avec Aladin, grâce à Aladin et leur connexion avec les États, le sauvetage de la Grèce, finalement, BlackRock s'est constitué un réseau politique et ils ont embauché au fur et à mesure des politiques, des banquiers centraux. Je pense notamment à par exemple, Osborne, qui est l'ancien ministre des Finances britannique qui gère BlackRock au Royaume-Uni. Mais ils ont aussi recruté l'ancien responsable de la banque centrale suisse, Hildebrand, qui donc a rejoint BlackRock. Mais c'est aussi le cas d'un ancien responsable de la banque centrale du Canada. Enfin voilà, ils ont tout un réseau qui leur permet finalement d'activer des leviers au sein des entreprises et auprès des États.
Est-ce que ça veut dire, Raphaël, que tous les mécanismes qu'on a décrits dans l'épisode précédent et qui font que BlackRock est si puissant servent une ambition politique ?
C'est compliqué de le dire, mais ce qui est sûr, c'est que on peut ranger BlackRock en fait dans la catégorie des entreprises qui font plus que de l'argent, qui ont plus qu'un projet économique. Ce qui est assez fascinant avec Larry Fink,
le patron de BlackRock,
c'est que finalement, c'est quelqu'un qui a une vision politique. Alors, c'est vrai que ça peut paraître compliqué comme ça quand on pense à un gestionnaire d'actifs, mais c'est quelqu'un qui est persuadé de pouvoir faire le bien à travers les marchés. Il a cette vision de, voilà, en répartissant les investissements à droite à gauche, on va développer telle région du monde, telle industrie. On va, par exemple, favoriser l'émergence des énergies renouvelables. Enfin, voilà, ils ont vraiment cette approche qui, finalement, leur rapproche d'un Mark Zuckerberg ou d'un Jeff Bezos qui se voit comme étant un peu plus que des patrons d'entreprise.
We should not avoid the conversation about climate change. Because climate change is now becoming an investment risk.
On ne doit plus éviter de parler du changement climatique parce que le changement climatique devient un vrai risque d'investissement, nous dit Larry Fink. En la matière, les promesses de BlackRock sont ambitieuses. Il est temps de les passer à la loupe.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
On ne change pas une équipe qui gagne, mais on la densifie un peu. Lucas Mediavilla nous rejoint en studio. Salut Lucas.
Salut Xavier.
Alors toi aussi, tu travailles au service économie de l'Express, mais nos auditeurs le savent bien maintenant. Ton domaine de prédilection, c'est l'énergie. Et si j'ai voulu qu'on t'entende dans cet épisode, c'est parce que tu m'as raconté comment BlackRock avait récemment agi en faveur d'une finance plus verte.
Pour replacer un peu l'histoire dans son contexte, Raphaël l'a dit, BlackRock investit dans des centaines de sociétés à travers le monde et parmi ces sociétés, il y en a beaucoup qui travaillent dans le secteur de l'énergie et parmi elles, il y a une société qui est ExxonMobil, qui est le premier acteur pétrolier au monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre 2020, il y a un actionnaire activiste qui s'appelle Engine Number One qui est monté au capital de ExxonMobil en disant au patron d'ExxonMobil, vous ne faites pas assez pour le climat, vous avez des investissements qui sont encore trop forts dans le pétrole et dans les énergies fossiles, il faut que vous diversifier votre portefeuille d'activité. Et en fait, il y a une bataille d'actionnaires qui s'est organisée entre ce petit actionnaire qui avait 0,5% du capital et ExxonMobil, qui est un groupe qui pèse des milliards et des milliards de dollars en bourse. Et donc, en fait, pour, entre guillemets, porter, plaider sa cause au conseil d'administration et devant l'Assemblée générale des actionnaires, Engine Number One a essayé de convaincre BlackRock de voter en faveur de ses recommandations. Ça a été super important parce que BlackRock, qui jusqu'ici avait une politique qui était plutôt entre guillemets passive dans la question de la transition climatique et ne votait pas forcément en faveur des activistes dans les conseils d'administration, a décidé, dans le cas de ExxonMobil et d'Engine Number One, a décidé de soutenir cet actionnaire activiste en disant « Nous, ok, on est d'accord avec les administrateurs que vous proposez pour diriger l'entreprise. » Donc ça a été absolument énorme dans le secteur de l'énergie, cette annonce.
Donc le rôle des gestionnaires d'actifs, ce serait donc de profiter de leur poids dans des grandes entreprises pour peser sur leurs décisions en matière d'écologie.
Oui, tout à fait, il y a cet aspect-là, et pas seulement, parce qu'en fait, la transition énergétique, pour la réaliser, il va falloir énormément d'argent. L'Agence internationale de l'énergie, elle estime qu'il faudrait chaque année 4000 milliards de dollars investis dans les technologies bas carbone, dans la mobilité électrique, tous ces investissements-là. Et en fait, par rapport à ça, évidemment, il va y avoir de l'argent qui va venir des États, donc de la puissance publique, mais à côté de ça, il faut évidemment qu'il y ait de l'argent qui vienne des banques et des gestionnaires d'actifs qui ont énormément d'argent dans leur portefeuille.
Mais en même temps, c'est pas qu'une question en fait d'argent. Il y a aussi tout ce qui est réglementation. Je pense notamment à plusieurs choses que Larry Fink et BlackRock poussent. La première, c'est la taxonomie. Alors la taxonomie, c'est la classification des énergies. Vous allez avoir d'un côté les énergies qui sont propres, donc très vertes. Après, vous allez avoir ce qu'on appelle le marron, donc qui est un peu à mi-chemin entre les énergies renouvelables et l'existant. Et puis après, il y a vraiment les énergies qui sont très carbonées. Donc il faut absolument sortir. Il y a aussi une autre chose que Larry Fink pousse, c'est fixer un prix à la tonne de carbone.
Major people in the world finance are talking about how do we create a true carbon market. And I think that's a net positive for the world.
C'est encore un marché naissant, c'est-à-dire que à l'échelle mondiale, il y a certaines régions du monde qui n'en ont pas. En Europe, on avance, mais on n'a pas encore réussi à harmoniser le marché du carbone. Mais c'est vrai que voilà, au-delà de l'argent, il y a aussi finalement tout ce qui est réglementation qui peut permettre de faire évoluer le secteur et promouvoir les investissements plus verts.
Donc si je vous suis, BlackRock pourrait jouer un rôle primordial dans la transition énergétique, mais est-ce que le groupe est vraiment prêt à le faire, à s'engager pour une finance plus verte ?
officiellement, c'est clairement le discours. Hein. Et puis bon, ils ont annoncé la mise en place de plusieurs indicateurs. J'en prends juste un, mais qui est le plus connu. C'est ce qu'on appelle donc les critères ESG, les critères donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, BlackRock, là, explique que tous leurs investissements sont faits selon ces critères. Ils se sont aussi également engagés à publier donc la température de leur portefeuille et donc finalement de révéler quel est l'impact sur le climat de leurs investissements.
Ce que vient de dire Raphaël, c'est vrai, mais il y a entre guillemets la peinture et il y a ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, BlackRock, par rapport à toutes ces annonces qu'il a réalisées, il y a quand même, il faut quand même aller voir ce qui se passe dans la boutique. Derrière, c'est un acteur qui est engagé fortement à travers ses investissements dans les énergies fossiles. Et au-delà de ça, on va dire que les engagements de BlackRock sont encore du déclaratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectifs contraignants qui sont associés à ça, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent de leur argent finalement, enfin qui n'est pas leur argent d'ailleurs, mais ils font ce qu'ils veulent de cet argent-là, ils investissent où ils veulent. Et le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup d'ONG qui reprochent à BlackRock de faire trop peu et d'arriver trop tard. C'est-à-dire que BlackRock ne va pas aller renverser la table dans toutes les boîtes sur lesquelles il est actionnaire. C'est-à-dire, par exemple, chez Total, il y a quelques mois de ça, des actionnaires comme chez ExxonMobil avaient demandé à Total d'aller beaucoup plus loin dans ses engagements en faveur de la transition énergétique et de se retirer finalement des énergies fossiles. Et là, BlackRock, finalement, n'a fait que soutenir la stratégie de Patrick Pouyanné et ses engagements vers le climat. Donc voilà, il y a parfois aussi un décalage entre le discours pro-transition et pro-climat de Larry Fink et la réalité de ce qu'il vote sur le terrain.
Et parmi ces ONG qui estiment que BlackRock n'en fait pas assez, il y a Reclaim Finance,
qui est une ONG qui travaille sur les enjeux de finance climat et qui tente de pousser le monde financier à se décarboner plus rapidement.
Vous entendez Lara Cuvelier, elle est chargée de campagne sur les sujets d'investissement au sein de cette ONG. Et comme toi, Lucas, elle fait la différence entre le poids que peut avoir BlackRock en tant qu'actionnaire dans les entreprises ayant recours aux énergies fossiles et sa responsabilité même dans le choix de ses investissements.
Pour nous, en fait, BlackRock devrait coupler ses mesures d'engagement qui sont très importantes et de vote avec des demandes précises qui sont définies dans le temps et une menace de désinvestissement à la fin, puisque si ces entreprises ne progressent pas et continuent de lancer des nouveaux projets dans le pétrole, dans le gaz, dans le charbon, pour nous, le soutien doit s'arrêter immédiatement jusqu'à ce que ces entreprises s'engagent à ne plus lancer de nouveaux projets et à arrêter l'exploration et les projets à l'étude et en cours. Quand on regarde les annonces de BlackRock sur le charbon qui étaient annoncées il y a plus d'un an maintenant, rien que la sortie de BlackRock de certaines entreprises du secteur du charbon, et alors la politique était assez peu ambitieuse, donc c'était un petit nombre d'entreprises, mais on avait déjà vu un effet sur les marchés. Donc là, l'objectif, c'est que tous les gros investisseurs, dont BlackRock, adoptent des mesures pour dire de façon claire aux entreprises, si vous ne mettez pas fin aux nouveaux projets dans le charbon, vous ne trouverez plus d'investisseurs et vous aurez du mal à obtenir du capital.
Imaginez BlackRock refuser d'investir dans de grandes entreprises pour des raisons liées au climat. Est-ce que c'est crédible ?
Oui, c'est tout à fait crédible. D'ailleurs, en 2020, BlackRock a décidé d'exclure de son portefeuille les entreprises qui étaient sur la question du charbon. Alors, pour revenir sur ce que disait Lara, ils n'ont pas exclu toutes les entreprises qui bossaient sur le charbon. Ils ont seulement exclu les entreprises dont plus de 25% des revenus étaient liés à la ressource charbon. Donc, c'est toujours ça, quand on parlait tout à l'heure du décalage entre la réalité et les actes. Mais effectivement, à terme, ils pourraient désinvestir ces secteurs et désinvestir les énergies fossiles. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, quand BlackRock prend une décision de cette ampleur-là, tout le monde suit. Parce qu'ils ont 10 000 milliards d'actifs sous gestion et il y a un effet d'entraînement sur le reste des investisseurs qui est juste énorme.
Et alors justement, quand on parle d'investissement, ces fameux 10 000 milliards de dollars, ils appartiennent aux clients de BlackRock. Donc, il y a évidemment un sujet qui concerne la transition énergétique. Il y a des gros financements à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que BlackRock a en face des clients qui lui demandent un rendement. Donc, pour eux, en fait, l'enjeu, et c'est ce qu'ils disent à chaque fois qu'on leur pose la question, de savoir de quel côté vous vous situez. En fait, ils vous disent, nous, on a envie de financer le plus possible des entreprises et des industries qui s'adaptent au changement climatique, qui sont plus vertueuses. Mais en même temps, on ne doit pas perdre de vue le fait que chaque année, on doit rendre des comptes à nos clients qui nous prêtent de l'argent et on doit, dans la mesure du possible, leur offrir le plus gros rendement. La note d'espoir, et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, et c'est ce qu'on a constaté en travaillant sur le sujet avec Lucas, toutes les industries vertes et de transition sont quand même de plus en plus rentables. Donc finalement, il y a aussi une porte de sortie pour tous les gestionnaires d'actifs comme BlackRock qui peuvent miser sur ces filières parce qu'il y a quelques années, vraiment, c'était un investissement quasiment à perte, alors qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de demandes, il y a du rendement et donc il y a un équilibre qui va se créer au fur et à mesure.
Bon, si la politique de BlackRock et des autres évolue en la matière, on n'hésitera pas à vous faire revenir tous les deux pour un troisième épisode de La Loupe. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Raphaël Bloch et Lucas Mediavilla du service économie de l'Express, des valeurs sûres sur lesquelles je ne saurais trop vous recommander d'investir en vous abonnant. L'offre digitale est gratuite le premier mois. Et si cette série d'épisodes sur BlackRock vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute pour nous soutenir. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires ou nous écrire à laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.